Europe 1, en balade avec Armen Petrossian, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le Noël arménien et c'est avec Armen Petrossian, le tsar du caviar, que nous partons en balade. L'homme aux nœuds papillons et à la moustache triomphante représente à lui seul 15% du commerce mondial du caviar. Il nous a donné rendez-vous dans sa boutique du 18 boulevard de la Tour Maubourg, là où son père et son oncle se sont installés en 1920. Le nom Petrossian y est inscrit en rouge sur la façade verte, un nom qui a fait le tour du monde.
Europe 1, 11h30, en balade avec Armen Petrossian, Frédéric Taddeï.
Bonjour Armen Petrossian.
Bonjour.
Toujours autant de monde dans votre boutique?
Oui, c'est normal, c'est vraiment le dernier moment pour faire ses courses pour les fêtes.
Est-ce que la boutique ressemble exactement encore aujourd'hui à celle de votre père et de votre oncle?
Alors absolument, rien n'a changé en fait. C'est le même extérieur à la virgule près. Tout est exactement identique. Bon, les meubles ont été refaits.
Les meubles en bois, on se croirait un peu chez un apothicaire du 19e siècle.
Non, mais c'est vrai, en fait, c'est un peu l'esprit des boutiques de cette époque. Cette boutique a été ouverte en 1920. Et bon, c'était un peu la mode de l'époque de mettre des boiseries partout. Bon, là, on a mis les lumières, c'est un peu plus moderne, mais sinon, c'est la même chose. Et les boîtes non plus n'ont pas changé depuis.
Les boîtes, le fameux bleu, c'est le bleu roi. Hein.
Voilà, le bleu Petrossian, même, il faut le dire. Ouais. Et avec le bateau, c'est ce logo, cette marque n'ont pas changé depuis 1920.
Est-ce que les vendeurs autrefois avaient aussi des blouses blanches comme aujourd'hui?
Ah oui. Ouais. Oui, c'est pareil.
Pourquoi est-ce qu'on met des blouses blanches pour vendre du caviar?
Bon, parce que c'est la tradition dans l'alimentation de mettre des blouses blanches maintenant. Bon, voilà.
Attends, il y a aussi toute une part épicerie fine. Hein. On vend du saumon.
Il y a tout ce qui est poisson fumé, épicerie. On a plein de spécialités de chocolat, de vodka, de foie gras et tout un assemblage de produits de sauvetterie, saumon, poisson fumé, etc. C'est fait chez nous à Angers. On a l'usine à Angers et tout est fabriqué chez nous.
La boîte de 10 kilos, c'est vous qui avez inventé ça, la boîte de caviar de 10 kilos.
C'est moi qui l'ai inventé. Et j'en suis très fier d'ailleurs.
Oui, il paraît que vos concurrents étaient verts de rage. Ils se disaient, on aurait dû y penser.
Oui, exactement ce que la concurrent m'a dit. C'est une idée qu'on aurait dû avoir.
En même temps, qui peut s'acheter une boîte de 10 kilos de caviar?
Si vous faites une réception, 10 kilos, c'est quoi? C'est 100 personnes?
Ouais.
C'est pas dramatique.
Non, c'est pas dramatique, c'est le prix qui est dramatique.
Non, bah, si vous ramenez ça à la personne, c'est pas...
Oui, non, oui, on peut toujours...
Non, mais si c'est 50 grammes par personne, bon, voilà, c'est... Mais on a fait une très grande réception, il y a plus de 250 personnes, ils ont pris une boîte de 10 kilos, bon, bah, c'était pas...
Oui, c'était pas l'orgie, hein.
Mais quel coup de pub!
Vous êtes bien conscient que le caviar, c'est le produit le plus cher du monde avec la cocaïne, et que d'ailleurs, les deux se vendent au gramme.
Oui, mais ça, c'est pas anormal. Bon, c'est en quelque sorte un petit peu une drogue.
Sans aucun doute. Cela dit, le caviar, il y en a beaucoup moins que de la cocaïne. Hein. C'est beaucoup plus rare.
Oui, c'est plus
rare. C'est aussi cher, mais c'est plus rare.
Et il n'y a pas de spécialiste.
Et c'est légal. Quoique non, maintenant, le caviar sauvage...
C'est illégal.
C'est illégal.
Tout à fait illégal. Plus, hein. Non. Depuis 2008, hein, c'est pas... Ouais.
Donc maintenant, il n'y a plus que du caviar d'élevage.
Oui.
Et il y en a quoi, à peu près 300 tonnes produits par an?
Voilà, même un peu plus, parce qu'il y a de plus en plus de fermes et de plus en plus de consommateurs.
Ouais, donc à peu près 5 fois moins que de la cocaïne, quand même.
Alors ça, j'ai pas fait le calcul.
Ah oui, c'est entre 1400 et 1500 tonnes par an. Hein.
Quand on a goûté du caviar, c'est tellement bon qu'on a envie d'en regoûter. Donc dans ce sens-là, c'est très addictif. Mais en même temps, c'est pas une consommation de tous les jours.
Non.
À la différence de l'autre petite chose
même
blanche.
Pour vous, même pour vous?
Ah non, moi j'en mange tous les jours, mais moi c'est partie de mon style de vie.
Moi, ce qui m'a toujours fasciné ici, dans votre boutique, c'est qu'il y a toujours une boîte de caviar ouverte et que vous en proposez aux clients.
Oui.
C'est le seul aliment, j'ai l'impression, qu'on propose. En tout cas, le seul aliment aussi cher.
On fait goûter le saumon, on fait goûter plein de choses. Mais
enfin, si vous voulez, de pouvoir goûter le caviar dans la boutique...
Ça fait partie de la tradition. Donc, il faut garder les traditions. Les gens viennent, goûtent, puis prennent plaisir à goûter plusieurs caviars. Qu'ils en achètent 30 grammes ou 1 kilo, on les fait goûter pareil.
Mais vous n'avez pas remarqué des gens qui viennent goûter, qui vous disent, oh, finalement, non, je ne vais pas en acheter?
Oui, ça arrive. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Thank you.
le fait de vous être nourri au caviar depuis votre enfance, vous avez l'impression que ça a un certain nombre de vertus ?
Ah, énormément. Vous savez que le caviar rend de bonne humeur.
Il paraît.
Voilà.
Je crois que Rabelais déjà le disait.
Voilà, ça rend de bonne humeur. Et alors, c'est extraordinaire parce que quand on dit que ça, c'est aussi aphrodisiaque, donc on comprend que aphrodisiaque plus la bonne humeur, ça ne peut que fonctionner.
Et c'est qui les clients ? Je parle des vrais amateurs de caviar, pas ceux qui l'achètent parce que ça se fait.
C'est tout le monde, parce qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens, mais ils achètent 30 grammes et ils se font plaisir à la fin de l'année. Voilà, ils apprennent 30 grammes, 60 grammes, 2-3 grammes par personne. Donc ils se font leur plaisir de l'année. C'est pas tellement non plus. Bon, ça va faire 60 euros ou 50 euros qui vont faire par personne. Donc, bon, c'est cher, bien sûr, mais ce n'est pas impossible.
Mais c'est vrai que quand on vient dans cette boutique historique, les clients sont de toutes sortes de gens. On pourrait s'attendre à ce que ce soit l'underground des ultra-riches, mais pas tant que ça.
Mais non, parce qu'on a des gens très simples qui viennent. On a un peu vraiment de tout. Des gens qui viennent acheter du saumon, quelques tranches de saumon. Ils vont se faire plaisir avec des petits produits aussi. On n'achète pas tous les jours du caviar. On achète du caviar de temps en temps, mais on achète souvent du saumon fumé, des autres produits, tout ce qui est poisson fumé, crabe. Ça, on en achète très souvent.
On vous appelle le tsar du caviar aujourd'hui. Est-ce qu'on appelait votre père comme ça ?
Je préfère pape, mais bon.
Vous préférez pape ?
Oui, parce que j'ai la tête sur le...
Il y a des papes qui ont mal fini aussi.
Mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais est-ce que c'est à vous que c'est réservé ou votre père ?
Non, mon père et mon oncle, ils n'étaient pas... À l'époque, c'était pas du tout ça. Moi, c'est vrai parce que je suis le plus vieux dans ce métier. Et bon, voilà, donc c'est plutôt une question d'âge. Ce qui ne me ravit pas forcément parce que.
Bah, oui, quand même.
Ça fait 45 ans pratiquement que je fais ce métier. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir mes fils qui m'ont rejoint, qui travaillent avec moi. Donc ça, c'est une grande chance.
Il y en a aux États-Unis, mais je crois que l'autre est dans la restauration chinoise, on m'a dit.
Tout à fait. Mais aussi, il s'occupe de la restauration ici aussi.
Europe 1. On va partir en balade aujourd'hui avec vous. Armen Petrosian, on se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Armen Petrosian sur Europe 1.
Nous voilà avec Armen Petrosian, rue de l'Université, on se dirige vers les Invalides. Vous aimez Paris, Armen ?
Moi j'adore Paris, c'est la ville la plus extraordinaire du monde. Et chaque fois qu'on part, on revient et on se dit « Ah, Paris, c'est quand même super !»
Quand votre père et votre oncle sont arrivés, qu'ils ont ouvert cette boutique en 1920, il y a presque un siècle maintenant, sont eux qui ont lancé la mode du caviar à Paris ?
Absolument, c'est eux qui ont même introduit le caviar, parce qu'avant eux, il n'y avait pas de caviar de commercialisé.
Quand on dit que Rabelais en parlait, et pas seulement lui, Cervantes en parle dans Don Quichotte, mais il ne parlait pas de la même chose.
Non, parce que le produit n'était pas du tout le même d'une part, et d'autre part, on parlait de caviar comme d'une curiosité, parce qu'en fait, c'en était une à l'époque, puisqu'on le dégustait pas du tout de la même manière, et en même temps, c'était plus un produit d'apothicaire qu'un produit de consommation de table.
Vous m'avez dit que c'était une sorte de Prozac de l'époque de la Renaissance.
Oui, mais c'est toujours. C'est-à-dire qu'en fait, on le faisait, on le réduisait en poudre, pour qu'on le consommait comme un médicament, en fait. C'était un médicament.
Ils ont eu du mal à imposer le caviar à la russe.
Oui, parce qu'au début, si vous voulez, les gens ne s'attendaient pas au caviar. Ils n'avaient pas le goût du caviar. Donc pour eux, ils avaient tout rejeté parce qu'ils disaient « Oui, c'est salé, c'est des œufs, ça sent le poisson. » Donc il y avait Après, une fois qu'ils goûtaient, qu'ils acceptaient de goûter, là, ils trouvaient ça bon. Mais vous voyez, il y avait un temps entre la dégustation et la vision et le concept même de l'œuf.
Votre père et votre oncle vous ont raconté en détail leur début, parce que vous passez pour l'un des plus grands connaisseurs du caviar, à la fois par votre longue expérience, mais aussi parce que vous avez eu votre père et votre oncle avant vous.
Ah, mais bien entendu, ils ont transmis le goût du produit, la connaissance, savoir comment le travailler, comment faire la maturation, comment respecter les œufs, parce que c'est tout un travail manuel et en même temps de goût. Il faut le sentir, il faut le regarder, avoir la brillance, la texture. Donc tous les éléments sont importants. C'est un produit qui est très compliqué en fait, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense.
C'est ce qui explique son prix aussi.
Le prix, c'est la rareté, parce que plus on va sélectionner, plus on va avoir des produits qui vont être exceptionnels et qui vont, du fait de leur rareté, augmenter le prix. Si vous voulez, le caviar, sur un lot de caviar, le caviar de haut de gamme représente peut-être 5-6%. Le super haut de gamme, le moyenne gamme, il représente encore 15%. Puis après, c'est un peu le tout venant.
Au départ, ce qui fait aussi la rareté, c'est qu'on prend les œufs de la femelle esturgeon et après ça, elle ne fera plus jamais d'œufs. C'est la rareté des œufs qui fait déjà le prix, non ?
Oui, en fait, c'est surtout le temps, si vous voulez, qu'il faut à un esturgeon pour être adulte. Dans la nature comme dans une ferme, c'est une dizaine, quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, pour que l'esturgeon soit adulte et qu'il puisse donner des œufs. Donc, de fait, ce n'est pas un produit qui est en abondance naturelle. Il y a un temps pour attendre que l'esturgeon obtienne sa maturité sexuelle.
L'esturgeon mâle, on en fait quoi ? On le mange ?
La chair ? Bien sûr qu'on la mange. Si vous voulez, il faut savoir que dans l'histoire, l'esturgeon a d'abord été roi par sa chair, bien avant d'être roi par ses œufs.
Ah oui ?
Ah oui.
Et c'est drôle, pourquoi n'en mange-t-on pas ?
On en mange bien, on en mange beaucoup.
Bon, c'est pas très connu l'esturgeon pour sa chair.
Mais si, parce qu'il y a des pays qui ont eu l'habitude de consommer de l'esturgeon en grande quantité, comme la Russie par exemple, et c'est eux qui achètent la plupart des esturgeons produits un peu partout, parce que c'est eux les plus gros consommateurs du monde.
On mange aussi la femelle ?
Ah ben bien sûr. Les mâles en fait sont éliminés très tôt dans l'élevage, mais dans la vie sauvage, ils vivent bien sûr leur vie sympathique.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus que du caviar d'élevage. Il n'y a plus du tout de trafic sur le caviar sauvage.
Bon,
c'est ce qui a fait qu'on a dû interdire l'exportation du caviar sauvage. Hein. C'est à cause du trafic.
C'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que si on a interdit les esturgeons en 1997, c'est la convention du CITES qui a interdit les esturgeons, c'est parce qu'il y avait une surpêche absolument anormale et avec une course, si vous voulez, au bas prix. Et ça, c'était tout à fait négligeable, terrible pour les esturgeons parce qu'on a, en quelques années, décimé les stocks.
Aujourd'hui, on est en train de repeupler la mer Caspienne ?
Oui, depuis près de plus de 10 ans maintenant. On a un programme qui est fait par tous les pays de la Caspienne, auquel chacun participe, de réempoissonnement et de conservation parce qu'on interdit la pêche. Et en même temps, on réempoissonne. Donc aujourd'hui, petit à petit, les stocks se reconstituent et on peut espérer que dans 8-10 ans, on aura à nouveau du caviar sauvage. Pas en grosse quantité, mais un peu.
Aujourd'hui, on produit à peu près autant de caviar d'élevage qu'on en produisait à la fin du XXe siècle. Du caviar sauvage à la fin du XXe siècle.
C'est équivalent, si vous voulez, aujourd'hui, la production d'élevage équivaut à la production du sauvage avant l'interdiction.
Et vous trouvez que c'est aussi bon ?
Oui, aujourd'hui, la qualité de l'élevage en général a fait d'énormes progrès. Et en plus, après, il y a tout ce point que j'expliquais de qualité, de maturation, et où on va développer les arômes. Et là, on arrive à avoir des produits absolument exceptionnels.
Et c'est donc aussi cher que l'étel sauvage.
Ben oui, parce que c'est en fait, comme le prix, c'est la rareté. Si c'est la même rareté, c'est pareil.
Non, on pourrait imaginer que des gens ont cessé d'aimer le caviar parce qu'il n'était plus sauvage.
Ben, c'est-à-dire que, bon, moi je comprendrais ça pour certains caviars qui sont peut-être d'élevage, mais pas bons. Effectivement, on peut se poser la question pour certains types d'élevage.
Nous sommes sur l'esplanade des Invalides.
Ah, ça, c'est un endroit extraordinaire.
Vous aimez les Invalides ?
Ah oui, j'adore. Alors, pour la petite histoire, d'abord, vous n'avez pas vu ça, mais en fait, il y a des ruches.
Dans les fossés autour des Invalides, là où il y a des canons, en bas, il y a des ruches.
Voilà, les ruches et les canons, ça va bien ensemble. Et puis, il y a une chose extraordinaire dans ce musée des Invalides. Quand mon père recevait ses fournisseurs à l'époque, c'était les fournisseurs soviétiques, et il devait les occuper. Alors, il me disait, va les emmener au musée, va les promener au musée. Alors, je le connais par cœur, parce que je l'ai visité au moins une centaine de fois. C'était assez drôle.
Avec des dignitaires de l'URSS.
Absolument. Donc, je les emmenais visiter tous les recoins de ce musée, qui sont magnifiques, parce que Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans ce musée, notamment tout le musée des costumes, qui est absolument superbe. Bon, et puis après, il y a des expositions qui changent tout le temps, mais il y a le musée des armes, le musée des costumes.
Oui, ça frise presque l'espionnage.
Les armures, c'est magnifique.
Et ben on va rentrer dans les Invalides avec Carmen Petrosian. On s'y retrouve juste après une pause.
La balade de Frédéric Taddy et d'Armen Petrosian continue dans un des monuments phares du 10e arrondissement.
Nous entrons maintenant dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, ce chef-d'œuvre de l'architecture française classique. C'est Mansart et Drouhan qui en étaient les architectes sous Louis XIV.
L'entrée ici est très impressionnante parce qu'en fait, cette cour, elle a un côté très majestueux, un côté extraordinairement imposant. La cour, elle est imposante. Et quand il y a des manifestations ici, on est écrasé en fait par tout ce qui se passe autour. C'est fabuleux. Puis il y a le dôme des Invalides qui est juste derrière. C'est une vision assez extraordinaire parce qu'il y a une perspective entre ici et là-bas qui est absolument fabuleuse, parce que tout ça, c'est en perspective absolument exacte, c'est fabuleux.
Donc tout autour de nous, c'est le musée de l'armée, où tous les petits garçons parisiens emmènent leur papa le week-end. C'était votre cas aussi?
Oui, moi j'emmène mes petits-enfants maintenant. Moi je suis venu beaucoup. Et c'est vrai que c'est des musées intéressants, parce qu'il y a toute l'histoire de l'armée, les armes, les uniformes.
Et ça continue de passionner les petits garçons.
Voilà, mais les médailles. Donc il y a beaucoup de choses qui... Et puis il y a tout ce côté canon. Ils ne se rendent pas compte comment c'était. Aujourd'hui, ils ont dans la tête des armes automatiques qui font bloum, bloum, bloum. Et puis là, ils voient quelque chose d'authentique, un gros morceau de fonte et qui lance des boulets. Alors ça les impressionne.
Les bruits que vous entendez, évidemment, ce sont des travaux, puisqu'il y a des travaux dans les Invalides, comme partout, absolument, dans Paris.
Absolument.
Armen Petrosian, vous faites partie de ces hommes qui portent le nœud papillon. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence radicale entre les hommes qui portent des cravates et ceux qui portent des nœuds papillons. Pourquoi est-ce qu'on préfère le nœud papillon à la cravate?
Moi, j'ai toujours porté le nœud papillon parce que j'aime bien ce côté noué, un peu compliqué, difficile à faire. Et puis, ça permet aussi de varier complètement. J'en ai plus de 500, je varie les couleurs selon les événements, les thèmes de la journée.
Il y a quelque chose de rigolo, a priori, dans le nœud papillon. Ça gêne souvent les hurluberlus, les savants fous qui portent des nœuds papillons.
Oh bah moi, je veux bien être catégorisé comme savant fou, ça ne me gêne pas du tout. Non, moi, j'assume tout à fait cette part d'humour du nœud papillon, et je trouve que c'est vrai. Il y a une part humoristique dans le papillon où on se rend un peu moins au sérieux qu'une cravate.
Et la moustache alors, parce que vous avez la moustache.
C'est
alors,
le plaisir.
Je dis triomphante, mais ça annonce, c'est une moustache à la Napoléon III que vous nous avez.
Alors,
la
Napoléon III l'avait plus longue comme ça. Moi, je l'ai un petit peu en croc. C'est une moustache qui était très à la mode dans les années 1850. Et mon grand-père avait une moustache comme ça du côté de ma mère. Voilà, il y avait beaucoup de généraux qui avaient des moustaches comme ça. Et donc, moi, j'ai très très longtemps, depuis que j'ai 18 ans, j'ai une moustache comme ça.
Vous êtes le seul, parce qu'avant la guerre de 14, tous les hommes portaient la moustache. Je suis de voir les photos
d'époque. Mais moi, j'ai toujours porté la moustache.
Et après la guerre de 14, tous les hommes se rasent la moustache.
C'est vrai. Et je vais vous dire,
vous avez dû vous sentir
quand,
très
quand
seul.
Quand j'étais jeune, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu as avec ta moustache? T'as l'air bizarre, tu fais clown. Il faut assumer aussi. Hein. Voilà.
Et est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi les hommes se sont rasés la moustache après la guerre de 14?
Aucune idée. Moi, je pense qu'il y avait un côté propre. Il fallait être présentable, pas avoir quelque chose de travers. Alors qu'on peut être parfaitement propre et net avec une moustache. C'est pas parce qu'on a une moustache qu'elle doit être dans tous les sens. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes portent pratiquement tous des barbes.
Mais plus la barbe que la moustache, ou alors l'ensemble.
Il y a un rapport psychologique à l'indice pileux avec sa façon de vivre. Je pense qu'il y a quelque chose.
Armen Petrosian, vous étiez à l'hommage national qu'on a rendu à Charles Aznavour, ici même, en octobre dernier, dans la cour des Invalides.
Tout à fait, j'étais là, voilà, j'étais exactement là. Et c'était extrêmement impressionnant parce que, justement, il y avait un recueillement. Un partage, c'était un moment de partage avec les présidents qui ont fait leur discours, tous les gens qui étaient là. Il y avait vraiment une ambiance extrêmement recueillie, sage, respectueuse. Et j'ai trouvé ça très, 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 très belle cérémonie.
Quand son cercueil est parti, on a diffusé « Emmenez-moi », la célèbre chanson de Charles Aznavour.
Tout à fait.
J'ai trouvé que c'était une erreur, il aurait dû passer « J'ai vécu ». Vous la connaissez, « J'ai vécu »
Oui, tout à fait.
C'est sa chanson sur la mort.
Voilà, il y avait plusieurs chansons qui auraient pu être prises, mais « Emmenez-moi » allait bien dans le côté, justement...
C'était gay.
Voilà.
Mais je trouve que « J'ai vécu », c'est encore plus gay, c'est quand il s'explique devant Dieu. On va écouter « J'ai vécu », ça nous fera penser à Charles Aznavour.
Solitaire, l'allée simple sans retour, que tout homme de la terre prend un jour pour aller voir Dieu le Père et lui compter ses vertus. Je lui dirai sans manière, j'ai vécu la vie d'un être pétri de chair et de sang, j'ai vécu chaque seconde de mon temps. J'ai vécu pour tout connaître de ce qui m'était offert, sans souci d'aller au ciel ou en enfer, pensant que je n'avais rien de mieux à faire. Ni plus ni moins optimiste que le reste des humains, j'ai mené la vie d'artiste, pas de saint. Dès lors que c'est à la piste que le spectacle s'est dû, admettons qu'en égoïste j'ai vécu la vie d'un être qui n'aspirait qu'au bonheur, j'ai vécu jusqu'à m'en déchirer le cœur, j'ai vécu mon Dieu peut-être sans penser à mon salut, mais sur terre on m'avait affirmé que tu laissais venir à toi les brebis perdues. Si mes lettres de créance semblaient minces et sans effet, si pour toucher sa clémence je devais justifier mon existence en détail par le menu, je dirais pour ma défense j'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud, j'ai vécu le désir planté dans la peau, j'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies, croyant par moments toucher le paradis, en brûlant mes jours et consumant mes nuits, j'ai vécu ma vie.
C'était « J'ai vécu », chanté par Charles Aznavour en 1972. Vous l'avez bien connu, Aznavour ?
Oui, bien sûr, je connaissais.
En tant qu'Arménien, en tant que mangeur de caviar ou
en tant qu'Arménien, parce qu'on allait très souvent dans des réunions où il y avait des Arméniennes, églises, etc. Donc évidemment, à beaucoup de reprises, je l'ai rencontré, je l'ai vu.
Et il aimait le caviar ?
Oui, enfin pas plus que ça. C'était pas vraiment quelqu'un qui était... dithyrambique sur la nourriture, mais donc il aimait bien manger, mais pas plus.
Oui, il est resté très mince hein, tout le temps, d'ailleurs.
Ce n'était pas quelqu'un qui était complètement fondu de repas.
On continue notre balade avec Armen Petrosian. On va se diriger vers le musée Rodin.
On en apprend plus sur les origines arméniennes d'Armen Petrosian dans la suite de sa balade parisien avec Frédéric Tadei.
Nous sommes sortis des Invalides avec Armen Petrosian, on est avenue de Tourville, on fait le tour hein, des Invalides, des fossés. Est-ce qu'il y a une grosse communauté arménienne encore aujourd'hui à Paris, Armen ?
Ah oui, il y a une grosse communauté arménienne à Paris, mais aussi dans les environs de Lyon, Valence, à côté de Paris, il y a Alfortville, il y a des endroits un petit peu spécifiques à Marseille où il y a des communautés arméniennes plus denses.
Et depuis que l'Arménie est devenue un État, vous êtes allé ?
Ah ben bien sûr, j'y vais à peu près deux fois par an.
Vous avez toujours de la famille là-bas ?
Non, je n'ai pas de famille, mais énormément d'amis.
Votre père et votre oncle venaient d'Arménie quand ils sont arrivés à Paris. Ils fuyaient les persécutions ?
Non, oui, enfin, ils ont fui les persécutions, mais en fait, à l'époque, c'était le Caucase était l'Empire russe. Ils venaient de l'Empire russe, en fait. Donc, eux, ils n'étaient pas du côté Anatolie, ils habitaient du côté de la Russie, mais il y avait des gros pogroms anti-arméniens un peu dans toutes les villes du Caucase, et ils sont partis à cause de ça.
Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été élevé en tant qu'Arménien au cours du XXe siècle ? Il y a des coutumes particulières ?
Vous savez, je crois que ce qui est important, c'est quand on vient de l'immigration, on garde toujours le côté immigration un petit peu, mais dans le côté tradition, nourriture, église, etc. Alors que sur la vie de tous les jours, on est totalement intégré, je dirais même fondu dans la culture française. Moi, je suis né en France, je suis français avant tout et parisien.
Jusqu'au bout des ongles.
Voilà. Donc, moi, je me sens pas arménien de nationalité, mais arménien de cœur.
Néanmoins, vous appelez Armen, votre père s'appelait comment ?
Moucher.
Et votre oncle ?
Melkom.
Ils vous ont gardé un nom arménien, ils ont Absolument. Gardé leur. Dans les années 20, être un immigré à Paris, c'était facile ou au contraire, c'était une période plutôt de xénophobie, non ?
D'ailleurs, tout le monde leur avait dit « Pourquoi vous mettez la marque Petrosian ? Francisez votre nom, mettez un nom de fantaisie, mais mettez pas votre nom. » Et mon père et mon oncle n'ont voulu jamais rien entendre. Ils ont fait exactement comme ils ont voulu. Ils ont fait leur nom, leur boîte, leur logo et ils n'ont rien demandé à personne.
Aujourd'hui, il paraît que vous représentez 15% de la production mondiale de caviar, c'est vrai ?
15% de la vente de caviar, oui, je représente 15% du marché qui passe par tous nos entrepôts, nos ventes, que ce soit en France, aux États-Unis et dans le monde.
Pour ça, vous devez, j'imagine, sillonner la planète. Vous passez de ferme d'élevage en ferme d'élevage. Aujourd'hui, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a en Chine, en France, bien sûr, Italie, aux États-Unis, en Afrique.
Oui, tout à fait. Nous, on est absolument... on tient à visiter plusieurs fois par an toutes les fermes, quelles qu'elles soient, qui existent. Donc, ça nous amène à nous transporter un peu partout sur la planète. Et après, bien sûr, on sélectionne les fermes qui nous semblent les plus intéressantes. Et on retourne après à chaque fois pour vérifier que tous les éléments du cahier des charges sont bien pris en compte.
Vous n'avez jamais été tenté d'acheter ou de créer vos propres fermes d'élevage ?
Alors, on y a pensé, bien entendu, mais ça me retirerait un petit peu de liberté que j'ai aujourd'hui.
Vous seriez obligé de vendre votre propre caviar.
Bah, oui, mais si en plus le caviar qu'on produisait n'était pas comme je le voulais, ce serait un petit peu ennuyeux.
Donc, rien.
Non, on a des accords privilégiés avec beaucoup de fermes. On est très proche des fermes. On a aussi une connaissance parfaite des fermes. Puisque
ils vous laissent intervenir sur le caviar.
Nous, on conseille complètement tous nos...
Je vous l'ai toujours dit, moi, je vous vois comme un auteur-compositeur-interprète du caviar.
Ah, mais vous avez parfaitement raison, c'est tout à fait ça. On fait toute la partition, sauf qu'on n'a pas de ferme.
Et ils vous écoutent religieusement.
Ah, mais bien sûr, parce qu'en fait, on y va, on leur donne des explications, on leur donne des aides, on les conseille... Même, on les conseille même commercialement, si vous voulez, sur les options à prendre ou à ne pas prendre. Alors donc, il y a tout un travail.
Nous voilà devant le musée Rodin, rue de Varennes. Pourquoi le musée Rodin amène Petrosian ?
Parce que le musée Rodin, c'est un musée que j'adore. D'abord, je trouve que Rodin a un génie complet des formes, des corps. Il est extraordinaire dans sa sculpture. En plus... il a eu une vie absolument dévergondée, extraordinaire. Et puis, ce musée a un jardin qui fait rêver les Parisiens parce que c'est un petit peu un coin secret, qui n'est plus très secret malheureusement, où on peut se promener. L'été, c'est absolument délicieux.
Il y a toujours des amoureux qui s'embrassent.
Ah oui, c'est adorable. Et donc, voilà, c'est l'endroit où on aime bien se ressourcer. Et moi, j'aime bien, quand j'ai un peu de temps, venir. Passer un peu de temps à me promener et puis rentrer après travailler.
Eh bien, on va rentrer dans le musée Rodin avec Armène Petrossian.
Dans le 7e arrondissement se cache un grand jardin, c'est celui du musée Rodin, et c'est là qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Armène Petrossian.
Nous sommes à l'intérieur du musée Rodin, 77 rue de Varennes, dans l'hôtel Biron. Nous sommes dans les jardins de ce célèbre musée avec Armène Petrossian. Alors là, c'est l'hiver, mais l'été, c'est encore plus fréquenté.
Ah oui, l'été, c'est noir de monde, mais il y a ce petit côté mystérieux de ce jardin en plein Paris, vous voyez, avec ses allées, avec ses petits recoins. Alors bon, là, on n'a pas de chance, il n'y a pas beaucoup de verdure, mais c'est un côté extraordinaire parce qu'il y a... Il y a ce côté découverte d'un jardin. On est quand même en plein Paris, 7e. On n'imagine pas avoir une telle surface. Donc il y a tout ce côté, vous voyez. Puis ce musée, enfin, qui a fait un peu château fort. Enfin, il y a vraiment un...
Là, on a le penseur de Rodin hein, qui est devant nous.
Penseur,
il est très haut puisqu'il est sur un socle. Et lui-même est très haut. Il doit faire à peu près 1,80 m de haut. Hein. C'est certainement sa sculpture la plus célèbre.
Oh, mais c'est, disons, dès qu'on pense Rodin, on pense penseur. Mais il y a tellement d'autres choses.
Il y a le baiser aussi.
Voilà,
on pense baiser aussi.
Non, il y a un côté aussi dans ce qu'a fait Rodin. Il y a tout un côté assez, disons, un peu charnel, voire érotique. Il y a un côté amour de la vie, amour de l'homme qui est assez extraordinaire.
Vous savez que le général de Gaulle avait pensé s'installer ici, dans l'hôtel Biron.
Et il avait bien raison.
L'a-t-il
pas fait ?
Non, la présidence de la République, mais il se dit que ce ne serait pas de très bon goût, vu que la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, on avait chassé les bonnes sœurs. C'était elle qui était là, hein, juste avant que Rodin, mais pas seulement Rodin d'ailleurs, il y avait Cocteau, il y avait Matisse qui était ici. Hein.
Le côté de ce jardin, on a une majesté. Il y a pas mal d'hôtels particuliers qui ont des beaux jardins à Paris, notamment dans les ministères. Mais celui-là, il a un caractère particulier parce qu'il y a tous ces arbres qui sont autour. Et quand on est au milieu, on ne voit absolument pas tout ce qu'il y a autour. On est complètement dans le jardin. Et puis, il y a toutes ces sculptures qui animent absolument de manière extraordinaire. Alors, il y a une promenade, quoi. Il y a une sorte de découverte que j'adore.
Rodin, c'est la sensualité, c'est la douleur, c'est l'érotisme.
Ah, je trouve qu'il a toujours eu une sorte de vision du corps qui est assez particulière à Rodin, où il y a en même temps des corps un peu nerveux, un peu musclés, avec des détails anatomiques. Et puis en même temps, il y a aussi le côté très rond de la sculpture de certaines femmes, où alors je dirais que c'est presque du caviar, hein, c'est tellement doux.
Il y a le caviar, je vous aime bien, je vous ramène toujours au caviar, pardonnez-moi, mais le caviar aujourd'hui on l'utilise dans les crèmes de beauté.
Absolument, on l'utilise dans les crèmes de beauté, on l'utilise dans beaucoup de choses, mais on fait d'ailleurs nous-mêmes beaucoup de produits qu'on a appelés caviar autrement, où ça rentre dans des préparations. Bon, mais en dehors de l'alimentaire, effectivement, c'est notamment des crèmes qui sont présentes depuis très longtemps. Mais c'est vrai que le caviar a cette propriété, en fait, de resserrer les tissus. Donc, en fait, les crèmes, elles font une sorte de lifting alimentaire, pratiquement. Vous voyez, ça fait un effet. Et on s'est aperçu de ça que quand on observait les dames qui faisaient le caviar, elles avaient toujours des mains magnifiques. Et toujours, on se demandait pourquoi elles ont des mains tellement extraordinaires. Et c'est là qu'on avait fait le rapprochement entre les mains et le caviar.
Et j'imagine pourquoi vous aimez les sculptures de Rodin aussi, c'est parce qu'elles sont noires. Enfin, les statues en bronze qu'on voit autour de nous, là, dans le jardin, elles sont toutes noires, hein, avec des petits reflets verts, comme votre devanture.
Vous savez, ce quartier est un quartier de ministères, d'hôtels particuliers, de grandes familles. Il y a un côté très, très village dans le quartier. Et puis, il y a un autre élément que j'adore, c'est le pont Alexandre III, Et on s'était toujours demandé...
C'est votre côté russophile,
en famille, voilà. Mais non, on s'est toujours demandé en famille pourquoi mon père avait choisi, mon oncle avait choisi cet emplacement qui n'était absolument pas commerçant.
Boulevard de la Tour Beaubourg.
Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de commerce, c'est complètement vide. Et on s'était dit, ben, y a que deux choses qui peuvent être probables. C'est un, c'est Napoléon et l'hôtel des Invalides. Et de l'autre côté, c'était ben, justement ce pont Alexandre III. Qui devait leur rappeler quelques souvenirs de la Grande Russie impériale, je suppose.
Là, nous voilà devant la Porte de l'Enfer, un trône magnifique. Il y en a d'autres, hein. Il y en a une à Mexico, il y en a en Corée du Sud. Elle est très impressionnante. C'était un peu sa réponse à la Porte du Paradis qui se trouvait à Florence. Ça fait peur, hein. Je vous vois bouche bée.
Oui, non, bah, je l'avais déjà vu, mais un peu oublié. Mais c'est vrai qu'elle a un côté un peu terrifiant. Et il y a toujours le penseur là-haut. Hein.
Oui, oui. Ouais. En fait, tous les autres ont l'air de dérouiller. Hein.
Oui, on se demande s'ils n'y prennent pas un peu de plaisir quand même.
Peut-être. Vous préférez aller en enfer ou au paradis, Armène de Rossion?
Je ne sais pas. Ça sera comme le bon Dieu décidera. Moi, je serai ou d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas problématique.
Je préfère l'enfer au paradis, je ne connaîtrai personne.
Oui, ça, c'est une version. Bon, faut-il croire, faut-il choisir. Et est-ce que c'est nous qui choisissons, surtout?
Ah ben, ça dépend de la façon dont vous êtes conduit.
Moi, je suis un ange.
Vous êtes un ange. Si vous baissiez le prix du caviar, tout le monde dirait que vous êtes un ange. Vous n'avez pas les pouvoirs.
Non, mais le prix, il est comme il est. Quand le marché baisse, on baisse. Quand le marché monte, on monte.
Et regardez, il y a les bourgeois de Calais, là-bas.
Ben là, vous voyez, ça c'est une belle image. Les bourgeois de Calais, parce que les pauvres, quels efforts psychologiques ils ont dû faire pour aller remettre les clés de la ville.
C'était roi d'Angleterre hein, pendant la guerre de 100 ans.
Ah oui, mais rendez compte. Aller remettre les clés de sa ville de son propre gré, sans mourir au combat. C'est pas possible, ça.
Ben, c'était les bourgeois de l'époque, hein. Ils se battaient pas, les bourgeois. Hein. Il faudra attendre la Révolution française pour que les bourgeois prennent les armes comme le peuple.
Ouais, ils ont l'air très triste.
Je vous propose d'écouter le compositeur préféré de Rodin. Vous savez qui c'était ?
C'était, non.
C'était Gluck.
Ah, c'est un très bon choix.
Et oui, un extrait de Orphée et Eurydice interprété par Wilhelm Kempf.
Et en plus, devant les bourgeois de Calais.
Devant les bourgeois de Calais. C'était La plainte d'Orphée, extrait d'Orphée Eurydice de Gluck, une transcription pour le piano par Wilhelm Kempff.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Tadié vous emmène en balade dans les rues de Paris avec Armen Petrosian.
Nous sommes à l'intérieur du musée Rodin, dans l'hôtel Biron, avec Armen Petrosian, dans la salle de ses œuvres de jeunesse. Vous venez souvent à l'intérieur ou seulement dans le jardin ?
Je viens plutôt dans le jardin, mais il y a des pièces que j'adore, comme celle-là. Cette pièce est absolument extraordinaire, cette rotonde.
Avec des grandes fenêtres qui donnent sur les jardins.
Là, on a envie de prendre son petit déjeuner. Là, oui, ça. Je verrais bien un petit déjeuner servi avec bien sûr du caviar, du champagne. Voilà, c'est un bel endroit. Oui, il y a ce côté, si vous voulez, qui est entre les bustes qui sont. Moi, je trouve que les têtes sont un côté absolument incroyable. Avec ses barbes fournies, écoutez, tiens, vous parlez des moustaches tout à l'heure. Voilà, tout à fait dans l'esprit, l'esprit de l'époque.
Le caviar, il faut apprendre à le regarder aussi, hein, je crois.
Ah, bien sûr. Vous savez, je crois que tous les sens sont importants. L'œil, l'odorat, le toucher, et même, bien le palais bien sûr, mais même l'oreille, parce que les grains, quand ils se séparent, ça fait un tout petit bruit reconnaissable d'une bonne qualité de caviar. Ouais.
Et quand on regarde, il faut que ça se quoi ? Il faut que ça brille ?
Voilà, il faut que le caviar soit brillant. S'il est terne, c'est un défaut. Il faut qu'il soit ferme, qu'il ne soit pas liquide. Quand on le bouge la boîte, il ne faut pas que la boîte se renverse. Donc il faut que le caviar sente bon, il ne sente pas une odeur de hareng ou poisson un peu abîmé. Donc il faut qu'il y ait un peu tous les éléments. C'est le bon sens. En fait, c'est le bon sens. Et souvent, les gens se font avoir parce qu'ils écoutent le vendeur au lieu de regarder leur nez, leurs oreilles. Et voilà, c'est ça.
Nous sommes devant le fameux baiser de Rodin, certainement l'une des plus belles sculptures du monde.
C'est vrai qu'il
est une des plus célèbres. Alors, toute blanche, celle-ci. Hein.
Ouais, c'est super. Oui, c'est une. Parce qu'en fait, dans ce baiser, il y a une volupté extraordinaire.
Ah oui, c'est un vrai baiser.
C'est un vrai baiser. Profond, hein. C'est un vrai baiser. Il y a une volupté. Et en même temps, c'est pas agressif. Parce que c'est un baiser, même si les corps sont nus, c'est pas quelque chose qui va déclencher les ligues de vertu.
Allez savoir.
Ah, oui. Aujourd'hui, il faut jurer de rien.
Oui. À l'époque non plus, il fallait jurer de rien.
Celui-là, il est absolument fabuleux. Regardez ce corps avec cette puissance, cette musculature. C'est absolument extraordinaire.
C'est l'homme qui tombe.
Oui, il y a une recherche absolument extraordinaire.
Vous savez comment on le surnommait, Rodin, le bouc sacré.
Voilà, parce qu'il avait des propensions très, très particulières. Envers la jante féminine. Je crois qu'il était très amoureux de toutes les femmes qui passaient.
C'est ce qu'on dit.
Camille Claudel était son égérie, quand même.
Il y a de plus en plus de touristes à Paris, on le voit dans ce musée. Est-ce que vous avez des nationalités très différentes qui fréquentent votre boutique aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr, on a toutes sortes de nationalités, des Asiatiques, des Sud-Américains, des Américains. Bon, aussi beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, du Nord, Afrique centrale, Chinois, Japonais.
Selon les nationalités, est-ce que des façons différentes d'apprécier le caviar, à votre avis ?
Non, mais les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Alors, ce qui fait que pour certains, notamment par exemple les Asiatiques, ils veulent avoir un produit très pur. Donc eux, ils n'aiment pas le côté fort. Donc, ils veulent un côté très doux, peu salé, peu, avec peu de relief. Alors qu'au contraire, les gens des pays de l'Est ont plus l'habitude d'un produit un peu plus violent. Vous voyez, il faut que ça soit plus maturé, plus fort, plus développé. Et sinon, le caviar qui n'a pas de goût, ils n'aiment pas. Alors donc, chaque personne, enfin, de différents pays, ont leur propre goût. Et les Français, comme ils consomment depuis 1920 grâce à nous le caviar, ben, ils ont un goût très développé et en fait, ils sont très difficiles. C'est bien.
Et alors, ce serait quoi aujourd'hui le caviar préféré des Français? C'est plutôt le Beluga? C'est plutôt le Sierre?
Je dirais le premier, c'est le Petrosian, mais enfin bon. Non, mais c'est, en fait, tous sont bien. Donc, mais il n'y a pas un préféré. Le Beluga, il faut le mettre un petit peu à part parce que ça ne représente même pas 1% de la vente. Donc, c'est vraiment un produit exceptionnel, un prix exceptionnel. Mais celui-là, il ne fait pas partie. C'est l'Ossètre, le Dorinki, le Baïka. C'est là où ça se
tous ces noms, ça vient des différentes espèces d'esturgeons.
Ça vient des espèces, différentes espèces d'esturgeons, mais ça vient aussi de notre imagination, puisqu'il y a des mots comme le Dorinki qui ont été des mots qui sont des marques.
Que vous avez inventé, vous.
Voilà.
Et le Beluga, c'était le grand esturgeon russe.
Le Beluga, c'est un nom classique. Sur le Beluga, il n'y a pas de. C'est le nom même de l'esturgeon.
Il y a beaucoup de jeunes. On voit que c'est une école entière qui vient visiter.
Ils sont venus nous voir.
Europe 1.
On va les laisser, on va quitter le musée Rodin et on va continuer notre balade avec Armen Petrosian dans Paris. Oui. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï en balade avec Armen Petrosian sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Armen Petrosian, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Armen Petrosian. En balade dans Paris avec le tsar du caviar. Et le tsar du caviar aime aussi le fromage. Nous voilà à la fromagerie Nicole Barthélémy, 51 rue de Grenelle. Bonjour Nicole.
Bonjour.
C'est tout petit.
Oui.
Ah, mais c'est un petit bijou ici. C'est l'endroit où on vient presque se recueillir. C'est comme une petite église. On vient renifler les fromages, goûter. D'abord, parler avec Nicole.
Oui.
Et elle vous explique tout de A à Z.
Et c'est comme une caverne d'Ali Baba. Il y a tellement de fromages.
Oui, c'est la vieille crèmerie parisienne. Voilà.
Exactement.
Tout à fait la vieille crèmerie parisienne. Je suis là depuis 47 ans et demi.
Vous fournissez toujours l'Élysée?
Toujours. On va préparer des services pour demain.
Est-ce que vous fournissez l'Élysée, Armen?
Parfois.
J'aime pas le dire. Et alors, il paraît qu'il y a une cave d'affinage.
Oui, alors là, la cave d'affinage.
Attention, hein, c'est un passe-droit.
Oui, vraiment.
Uniquement un passe-droit. Ça,
c'est grâce à vous.
Faut le dire à personne.
Oui, je vous en supplie. Hein. Ne le dites à personne, ne tombez pas. Faut descendre par l'arrière. Vous voulez que je passe en premier?
Oui.
Voilà. Alors, vous voyez, vous descendez comme ça. Hein.
D'accord.
Voilà. Voilà.
Je vous suis.
Voilà, vous me suivez. Il y a mon caviste qui m'attend en bas.
Donc, je descends.
Voilà.
Le dos tourné.
Voilà, descendez bien, allez-y.
Voilà.
Oups là, faites attention. Parce que la cave n'est pas si grande, celle-là, tout au moins.
Ben non, elle n'est pas plus grande que la boutique.
Voilà, en suivant, ça va aller.
Oui, il y a Armen qui suit.
Et là, la cave est un petit peu envahie de nos fameux monts d'or.
Ce sont les monts d'or qui sentent ce qu'on sent, là. Bonjour, monsieur.
Moi, je ne sens plus rien, force. Voilà, donc...
Ça sent bon, j'adore.
Tous les monts d'or qui sont là.
Voilà, les chèvres, les monts d'or, les Saint-Nectaire... Les reblochons, enfin tous nos fromages, voilà.
C'est ce que je vous disais, moi le Mont d'Or, voilà. Ça, c'est des choses extraordinaires. Parce
voilà, ça, c'est notre spécialité.
Ouais, il est tout orange, magnifique.
Après, nous les montons dans l'arrière-boutique et on les prépare, on enlève la croûte du dessus et il n'y a plus qu'à les servir à la cuillère.
Voilà. Est-ce qu'il y a une saison des fromages?
Bien sûr, pour le Mont d'Or, moi je les commande vers le 28 septembre. Et je les affine jusqu'au 20-25 octobre et je les mets en vente jusqu'au mois de février. Voilà. Ils arrivent toutes les semaines. Voilà.
C'est quoi votre fromage préféré à vous, Nicole?
Tout.
Tout.
Moi, j'aime tout suivant la saison.
Et vous, Armen?
C'est pareil. Quand on est dans un métier, on aime tout ce qu'on fait. C'est pas possible autrement.
Ça se marie avec le caviar, le fromage?
Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de travailler avec Nicole.
Non, pas encore.
Mais pas encore, parce qu'on a, un petit projet de travailler sur une petite création. Là, il va falloir qu'on mange un petit peu de fromage et de caviar. Il faut qu'on en mange beaucoup pour savoir.
Mais ça ne me gêne pas de manger du caviar, hein, ni de fromage. Parce que je suis descendante de poissonnier. Mon premier métier était dans le poisson. Vous voyez, alors ça ne me gêne pas du tout.
Mais il faut vraiment beaucoup faire des expériences.
Exactement. Et je pense qu'on pourra faire un mariage. Peut-être pas vraiment avec le Mont d'Or, mais peut-être avec du chèvre frais.
Il faudrait un fromage assez doux. Parce qu'en fait, la crème fraîche et le caviar se marient très bien.
Très, très bien.
Alors, il faudrait que la crème fraîche soit un petit peu différente, plus vers le fromage. Et voilà, c'était. On avait essayé que la burrata, c'est pas mal.
Oui.
C'est pas mal.
C'est pas mal, oui.
Alors, le côté crémeux de la burrata avec le caviar, ça marche très très bien. Mais la burrata, c'est pas très français quand même.
Non. Bon. Non, mais on essaiera avec un
caviar
triple crème.
Non plus, ça l'est devenu.
Mais oui, ça, mais bon. Si, il y en a c'est en vrai. France, il y en a
maintenant,
partout.
Oui, bon. Oui, mais bon. Attends, c'est plus un produit local, le caviar, donc on peut en faire partout.
Non. Donc, vous voyez, là, c'est une partie de la cave que vous voyez. Ouais. Je peux vous dire que c'est exceptionnel. Ouais.
Mais alors, parfois, quand on vient chez vous, il y a tellement de gens connus, on se demande s'il n'y a pas une boîte de nuit en dessous.
Non, nous n'avons pas de boîte de nuit. Non, mais... On a eu une boîte de nuit dans la cour de la Fontaine des Quatre Saisons.
Ah oui, juste à côté.
Oui, juste à côté.
Mais c'est juste à côté aussi que Sonia Riquel avait ouvert sa boutique en mai 68.
En mai 68, et nous, on est arrivés en mai 71. On est un quartier célèbre, mais la crémière fait partie des célébrités, ainsi que, ainsi que mon amie Cécile.
Cécile Pétrosian.
Voilà. Attention, en remontant, messieurs, de bien baisser votre dos.
Voilà.
Quelqu'un réceptionne ? Moi, ça va, avec mon 1m50, je passe partout. Voilà. Vous ne pourriez pas travailler là.
Il est trop grand.
Là, on est dans l'arrière-boutique.
Dans
bonjour,
les préparations.
Messieurs. Bonjour, messieurs.
En fin de compte, on a une vieille crèmerie, vous voyez.
Ouais.
Qui, alors là, on va faire les camemberts aux truffes fraîches du Périgord.
Et c'est dingue, maintenant, on met des truffes dans tout. Hein.
Oui, un peu trop, je trouve. Là, les trucs. Et alors, nous avons encore. Mais alors là, tout est chargé parce que c'est pas fini, c'est les vieilles boutiques, vous voyez, qui se font.
Ah oui, qui continuent.
Qui continuent.
Plus loin derrière.
Alors là, on a la réserve de chèvres et de produits frais.
Ce qui est toujours impressionnant, ce sont les fromages quand on les voit en entier. Vous savez, ils sont
énormes.
Alors
là, vous n'allez pas être déçus. Hein. Regardez toutes les meules qu'il y a partout.
Oui, c'est énorme. Oh là énorme. Là. On dirait des roues de carrosse.
On en a partout, là.
Ouais. Voilà. Ça, c'est magnifique. C'est tout le travail, c'est justement de l'arrivée à les amener à maturation, qu'ils soient bons.
Ça, les comtés et tout ça, je paye la nourrice à la montagne. C'est-à-dire qu'on me les garde là-bas.
Ah oui.
Quelqu'un qui vous dit qu'il affine son comté à Paris.
Oui. Ah bon
non, il faut dire la vérité. Hein.
Ouais,
ils sont bien dans leur montagne, voilà, hein. Franchement.
Il faut leur laisser un peu le boulot, ils sont montagnards.
Bah oui, hein. Voyez la vieille arrière-boutique d'une crèmerie parisienne. Hein, faut pas être grand hein, chez nous. Hein.
Oui.
Toute place est utilisée. Faut surtout pas me dire, il n'y a pas de place. J'en trouve toujours une. Ça, c'est le camembert à la truffe fraîche du Périgord. Là, j'en ai reçu 4 kilos, là.
C'est
et je suis très contente. Elle sent bon, hein, Roland.
Très bon.
Voilà.
Très, très bon.
Voilà notre petit tour.
Vous m'aviez fait un brie la dernière fois.
Oui.
C'est très bon.
Le brie aussi, hein.
Ah oui. J'adore, moi, le brie.
Mais je vous dis, moi, je me limite quand même dans les produits à la truffe, le brie, le camembert, le triple crème encore.
Oui, ça, c'est bien,
avec de la truffe pilée pure.
Moi, j'adore ça.
Et puis nos monts d'or, vous voyez comment ils sont préparés.
Parce qu'en fait, le bon mont d'or, il doit être prêt à la cuillère.
Et surtout pas chauffé.
Bien sûr.
Voilà. Parce que nous, vous voyez, il n'y a plus que la cuillère à mettre et hop.
Et pour faire, je veux faire une raclette.
Oui. Moi, c'est la raclette française au lait cru ou la raclette suisse qui a un peu plus de parfum, un petit peu plus huileux.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Vous voyez, nos raclettes sont là. Mais vous savez, la France a beaucoup de produits. Hein.
Bah oui, surtout dans le travail.
Voilà. Ça, je dois dire qu'elle est bien remplie, ma boutique, quand même.
Oui, c'est bien.
Non, c'est bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Nicole Barthélémy.
Voilà, de rien, c'est avec plaisir.
En plus, sa spécialité, c'est qu'elle est tellement gentille que même si on a envie de rien acheter, on achète quand même.
Bon. Vous savez, il faut venir quand même. Moi, on vient juste pour m'embrasser et régulièrement. Et j'en suis à la 3e génération, comme chez vous, de clients de la même famille.
Europe 1.
Ben alors, à bientôt.
À bientôt.
Tous les dimanches, de 11h à 12h30, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï. Et aujourd'hui, il se promène dans les rues parisiennes avec Armen Pétrosian.
Nous voilà à boulevard Raspail avec Armen Pétrosian. Armen, pendant la plus grande partie du XXe siècle, la maison Pétrosian s'est approvisionnée en caviar de Russie. Votre père et votre oncle ont dû faire du commerce très tôt avec l'URSS.
Alors, ils ont commencé... En fait, les premiers à faire du commercer avec l'URSS, parce qu'ils avaient eu l'idée du caviar, mais ils avaient aussi eu l'idée d'aller vers un pays qu'il connaissait très bien. Il parlait d'ailleurs le russe merveilleusement tous les deux. Donc ils ont réussi en fait à téléphoner, à l'époque c'était un exploit, au ministère du commerce.
Soviétique donc.
Oui, soviétique. Et ils étaient tellement surpris d'avoir un coup de téléphone de France en plus de gens qui parlaient russe, qu'ils étaient complètement estomaqués, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Bon, après, avec l'ambassade, il y avait une représentation commerciale à l'époque qui était active dans le bois. Mais là, quand on parle de 1920, il faut comprendre qu'en 1920, on n'est même pas à la fin des troubles en
Russie. C'est la guerre civile, oui. Voilà, c'est la guerre civile.
Il y a la guerre civile, il y a les armées blanches. Donc, ce n'est pas un moment où c'est facile.
Mais je me demande si ça n'a jamais été facile, parce que par la suite... Faire du commerce avec les Soviétiques, c'était pas toujours facile.
Ah non, c'était même très compliqué.
Et surtout quand on leur achetait du caviar, a priori un aliment destiné aux riches ou aux ultra-riches.
On voit ça, ils n'avaient pas trop de complexe quand même. Non, ça c'était pas très... Mais par contre, c'était compliqué parce que le système administratif était compliqué. Donc c'était ça qui était compliqué. Il y avait 20 personnes à voir avant qu'on prenne une décision. On changeait de décision toutes les 5 minutes. Donc c'était un peu problématique dans ce sens. Mais ça a été les Soviétiques ont été des partenaires extrêmement fiables.
Est-ce que Lénine aimait le caviar ?
Bah, écoutez, je suis un peu jeune pour lui avoir demandé.
Votre père aurait pu vous le dire.
Je pense pas qu'il l'ait vraiment rencontré. Mais oui, vraisemblablement, il aimait le caviar.
Et Staline ?
Aussi, bien sûr. Je crois que tous les dirigeants russes, jusqu'aux dirigeants actuels, adorent le caviar. Ça fait partie de la tradition, faut pas oublier.
Au moment où vous retrouvez à la tête de cette affaire, c'est le moment où c'est la fin de l'Union soviétique. C'est le pire moment peut-être pour les maisons de caviar parce qu'il y a eu la révolution islamique en Iran. Il y a l'écroulement de l'URSS.
Ça a été un moment très compliqué parce qu'en fait, toutes les relations qu'on avait dans le passé se sont complètement arrêtées et on s'est retrouvés, et je me suis retrouvé en fait avec... tout à fait un nouveau mode de travail puisqu'il fallait que je travaille avec 5 pays différents qui étaient chacun indépendants et les interlocuteurs c'était pas du tout les mêmes, pas du tout.
Et puis c'est le moment où le sauvage va devenir rare.
Alors à ce moment-là pas encore, mais l'exagération de la pêche qui a eu lieu après ça, entre justement par le fait qu'il y a eu 5 pays, que tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi, et aussi du fait de la déréglementation, si vous voulez. Donc, il y a eu une surpêche énorme entre 90 et 97. Et quand à 97, l'esturgeon a été protégé, ça a été un coup d'arrêt, pas immédiat, mais un coup d'arrêt.
Mais il paraît que vous l'aviez anticipé, que ce serait... Oui. Ça a été votre génie, dit-on, c'est que vous avez commencé à vous intéresser au caviar d'élevage 10 ans avant les autres.
Absolument, parce que moi j'ai commencé à m'y intéresser dès 93, avec les premiers essais de caviar qui ont été faits aux États-Unis et puis ensuite un peu plus tard en France. Donc on était parmi les pionniers, non seulement à regarder l'offre d'élevage, mais en plus... à le vendre, puisqu'on a été la première maison de luxe à proposer le caviar d'élevage à notre carte en 98.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu les numéro 1 ou vous l'étiez déjà avant ?
Vous l'étiez déjà, mais bon. Mais c'est-à-dire qu'on a, moi, j'ai au moins changé 3 ou 4 fois mon métier entre le moment de l'élevage et le sauvage, entre le moment du soviétique et post-soviétique. Donc j'ai dû remettre à chaque fois tout sur la table. Donc, oui, dans des maisons comme nous, c'est pas un fleuve tranquille. Chaque année est une nouvelle année avec ses nouvelles difficultés. Donc il faut assumer, il faut réagir et il faut avoir les bonnes options.
Il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Moscow Nights. J'imagine que vous l'aimez aussi.
Ah oui, super, super chanson.
On va écouter la version de Katie Lester.
Super.
dusk, our nights grow cold since our last goodbye. Dying embers warm up my soul. My heart feels the pain for you. Moscow night, my heart feels the pain for you. I long again and I weep through these Moscow
Kitty Lester qui interprétait Moscow Nights, une des chansons préférées d'Armen Petrosian.
Frédéric Taddeï en balade avec Armen Petrosian sur Europe 1.
Pour la fin de leur balade, Frédéric Taddeï et Armen Petrosian nous emmènent dans un restaurant du 6e arrondissement, mais attention, pas n'importe lequel.
Et nous voilà rue Grégoire de Tours, c'est au 5 rue Grégoire de Tours que se trouve le restaurant Youm, qui est le restaurant de votre fils.
Tout à fait, c'est moi. Mon fils a créé ce restaurant d'abord parce qu'il a eu l'idée de revisiter complètement la cuisine asiatique et surtout tout ce côté de Chine qui est relativement peu connu, ces bouchées vapeur.
Et en fait, les dim sum.
Voilà, les dim sum. Et il les a complètement refaits à son idée, en mettant toute une couche européenne, une couche de recherche. Il a fait vraiment un super boulot.
Et on va aller voir. Je suis venu dîner ici un soir, mais je ne savais pas que c'était chez votre fils. Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Mickaël. Bonjour.
Bienvenue, mon cher père.
Ça va, monsieur ?
Ça va.
Mickaël, comment expliquez-vous le fait que le fils du... non pas du tsar du caviar, mais du pape du caviar, il préfère, soit maintenant dans la restauration chinoise.
Mais en fait, c'est suite à...
Et pas depuis, et depuis longtemps, en plus, ça fait une bonne dizaine d'années.
Exactement. Alors, ça reste de la restauration, mais c'est vrai que j'ai commencé à faire ça suite à un voyage en Chine où je suis tombé amoureux du produit du dim sum. Et puis, il n'y avait pas à l'époque de restaurant spécialisé dans le dim sum à Paris.
Les dim sum sont les bouchées à vapeur.
Exactement, hein. C'est ça. Et du coup, je me suis lancé là-dedans avec un associé et on a commencé à travailler les recettes et on a ouvert le premier restaurant de
Et sans chinois, donc.
Et sans chinois. Alors, au tout début, on avait un associé chinois, mais qui est rapidement parti. Et du coup, après, on était sans chinois, effectivement. Juste avec l'amour de la Chine.
Maintenant, c'est ça la mondialisation. Hein. On aime la Chine, on ouvre un restaurant chinois.
Ben voilà, c'est extraordinaire. Comment un voyage peut orienter toute une idée de la restauration. Parce qu'en fait, bon, il est modeste, il ne dit pas, mais le travail qui a été fait sur ces dim sum, c'est incommensurable. Même les Chinois sont étonnés.
Oui, peut-être parce qu'ils sont étonnés parce que ça ressemble plus du tout à un dim sum.
Alors, c'est ça le truc, c'est qu'au tout départ, on s'était vraiment dit, on va faire vraiment du dim sum traditionnel pour apprendre à en faire, etc. Donc, moi, j'ai voyagé en Chine, j'ai été me former auprès de chefs chinois pour apprendre vraiment à les réaliser de manière traditionnelle. Et puis maintenant, depuis peu, on s'accorde à quelques associations un peu plus fusion. Mais au départ, oui, c'est vraiment traditionnel. Et j'ai eu un restaurant aux Galeries Lafayette pendant 3 ans où 90% de la clientèle était chinoise. Et les Chinois aimaient mes dim sum. Donc là, c'était la consécration.
Ah, oui, là, c'est bien.
Il a été adoubé.
Mais il paraît qu'en fait, il y a très peu de restaurants chinois à Paris qui sont tenus par des Chinois.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est il y a... souvent des Vietnamiens.
Et voilà, il y a...
Maintenant, c'est des Arméniens.
Oh. Oh là là.
Bah, c'est le Noël arménien.
C'est vrai, c'est le Noël arménien.
Non, mais après dans la grande Asie, je dirais... il y a toute forme de ravioli. Chez les Arméniens, on a notre ravioli qui s'appelle le mante. Chez les Russes, on a les pelmeni. Donc le fait de faire une pâte avec de la farine de blé ou tout type de farine et de mettre une farce de viande à l'intérieur, c'est vraiment commun en fait à toute l'Asie. Et donc aujourd'hui, moi, je réalise par exemple des pelmeni pour certains événements traiteurs, pour Petrosian, par exemple.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout ça, ça vient de la grande histoire. Parce qu'en en fait, il y avait la route de la soie. Et
Marco Polo.
Tous les gens qui venaient... En fait, ça, l'origine de ces pâtes vient en fait, de la Sibérie et de plus loin, de la Chine, du Tibet. Donc, c'est descendu. Et tout en long, ils ont essaimé, puisqu'après, la Russie, l'Arménie, mais chacun a refait ses recettes après.
Vous voulez dire que les pâtes italiennes, ça vient de la Chine au départ ?
Alors, ça, je ne peux pas vous l'affirmer, mais il y a de fortes chances.
Il y a de fortes chances, oui, ouais, complètement.
En fait, ce système. Et bon, quand on va. Bon, moi, je suis souvent allé en Sibérie, là, eux, ils font les pelmeni, par exemple, ils font ce même type de boucher. Et c'est drôle parce qu'ils les congèlent dehors. C'est assez marrant. Ils les font à l'intérieur, ils les mettent dehors, ça congèle tout de suite, ça fait moins 40.
Mais c'est ce qui donne, en fait, c'est dans les pelmeni, justement, ce qu'il nous disait au Kazakhstan, c'est ce qui donne le côté juicy, en fait, de la viande. C'est que la viande est congelée tellement froide dehors que, en fait, il y a de l'eau qui se mêle, en fait, à la farce et qui donne ce côté un peu juteux de la viande et que c'est super important, en fait, d'avoir ce côté glacé de la viande qui fait que quand ça refond, ça donne du jus.
Et vous n'aviez pas envie de continuer dans le caviar ?
Si, complètement, mais ouais. c'était une première expérience. En fait, moi, j'ai fait du conseil avant en finance et à un moment, j'en avais marre. Et j'ai fait ma crise de la trentaine. Et donc, j'ai ouvert ce resto avec un associé. Et puis après, on en a ouvert plusieurs. Et là, ça fait quelques années maintenant que je travaille aussi dans le groupe.
Une dizaine d'années maintenant que tu es avec nous.
Enfin, ouais,
8 ans.
Ouais, 8
oui,
ans,
parce qu'il y a les restaurants Petrosian aussi.
Mais il s'occupe en fait de tous les restaurants Petrosian et des boutiques. Et voilà, donc c'est bien.
Donc un jour, vous serez le tsar à la place du tsar.
Oui. J'espère en tout cas.
Il y a deux tsars, en fait, il y a Michael et Alexandre aux États-Unis. Donc on va avoir deux tsars qui vont être là, mais non, c'est bien, chacun de son côté. Non, c'est bien, il faut bien un jour ou l'autre passer la main. Mais je n'ai pas du tout envie de passer la main comme ça. En fait, j'ai envie de passer la main avec un autre programme.
C'est-à-dire ?
Je vais faire autre chose.
Ah oui ?
Voilà.
Et vous savez quoi ?
J'ai plein d'idées.
Vous ne voulez pas nous dire ?
Non. Mais le jour où ça viendra, je vous le dirai. Mais c'est trop tôt. Je vous assure, je vous jure sur tout ce que vous voulez, que je viendrai,
d'accord,
vous téléphonerai pour venir découvrir mes nouvelles idées.
Alors là, ça en fait combien des restaurants
De dim sum ?
Ouais.
Dont on a trois. En fait, on a un rue des Martyrs, un rue Grégoire du Tour dans lequel on se trouve, et un autre qui est un comptoir qu'on a à la Maison de la Chine, place Saint-Sulpice.
Eh bien, merci Michael, merci Armen Petrosian de
nous
avoir emmené en balade avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous les deux un très bon Noël arménien. J'en profite pour remercier l'Hôtel des Invalides pour leur accueil, le Musée Rodin, la fromagerie Nicole Barthélémy. Je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve dimanche prochain à la même heure, à 11h.